Chapitre 10. Le restaurateur de films, Claude Poignet, habitait rue Gambetta, maelstrom de commerce hétéroclite et de boutiques colorées. D'un côté, la voie ouvrait sur Wasem, son marché couvert, son brassage d'ethnie. Et de l'autre, on fonçait vers les quartiers étudiants, bordant les rues Solferino et Vauban. Dans sa petite maison, étouffée entre un restaurant chinois et un débit de tabac, le septuagénaire ne payait pas de mine. Lunettes à monture marron et à double foyer, vieux pull en laine bordeaux avec col en V, chemise à carreaux mal repassée. Était-il vraiment restaurateur de films anciens ou ancien restaurateur de films ?
Je dirais ancien restaurateur de films anciens. J'ai arrêté voilà une dizaine d'années à cause de mes yeux. La lumière n'y passe plus aussi bien qu'avant. Et le cinéma, c'est avant tout la lumière, vous savez. Pas de lumière, pas de cinéma.
Lucie avançait dans une de ces vieilles maisons du Nord au carrelage du salon collé avec du ciment, aux murs hauts et à la tuyauterie visible. Une bouilloire chauffait sous le gaz et dégageait une âcre odeur de café. Quand Claude remplit les deux tasses, Lucie crut qu'il versait du charbon liquide. Elle, qui buvait d'ordinaire son jus sans sucre, y plongea d'emblée deux morceaux.
« Alors, avez-vous pu autopsier le court-métrage ?»
Poignet sourit. Ses dents étaient à l'image du décor, du 100% rustique. Néanmoins, il portait encore, derrière ses rides, les traits d'un homme qui avait dû avoir un charme fou à la Redford.
« C'est vraiment un terme de policier, ça, autopsier. Comment une belle jeune femme comme vous en vient-elle à traquer les criminels ?»«
Probablement une histoire de frisson. » « Vous, c'est face à vos bobines et moi, face à la rue. On cherche tous les deux à réparer ce qui ne va pas, en définitive. »
Elle s'efforça d'engloutir son breuvage. Vraiment infect. Même avec tout le sucre du monde. Un chat angora vint ronronner entre ses jambes. Elle le caressa tendrement.
« Vous connaissez depuis longtemps avec Ludovic ?»«
Son père et moi avions fait l'armée ensemble. » À Ludovic, j'avais offert, voilà plus de 20 ans, son premier projecteur. Un 9,5 mm de chez Pathé, dont je me débarrassais faute de place. Déjà à l'époque, il organisait des séances de projection sur les murs de la maison de son père. C'est moche ce qui lui arrive. Sa mère est décédée d'une maladie, il n'avait pas 9 ans. C'est un bon garçon, vous savez.
Je le sais, et c'est pour l'aider que je suis ici. « Vous me parlez du film ? » ?»«
Allons-y. »
Ils montèrent des marches étroites, craquantes, qui démontraient clairement l'âge antique de la maison. Des portraits ornaient les murs par dizaines, non pas ceux de stars de cinéma, mais d'une femme anonyme, dont le visage, finement maquillé, attrapait magnifiquement la lumière. Sûrement les traces d'une obsession, d'un amour envolé trop tôt. Une fois à l'étage, ils longèrent un hall au plancher usé, plongé dans la pénombre.
À gauche, mon labo de développement. Il m'arrive encore de filmer avec une vieille 16 mm pour m'amuser. Je quitterai ce monde avec une pellicule au bout des doigts, croyez-moi.
Il ouvrit la chambre noire, dévoilant des caméras, des bobines, des bidons de produits chimiques, puis repoussa doucement la porte.
C'est au fond que nous allons.
La dernière pièce ouvrait sur un véritable laboratoire dédié à l'univers du cinéma. Table de montage, visionneuse, loupe, matériel informatique perfectionné avec scanner de film. Il y avait aussi de nombreux outils plus archaïques, ciseaux, colle, mini-guillotine, adhésifs, règles. Lucie avait eu raison d'employer le mot autopsie. On devait décortiquer ici un film comme on disséquait un corps. Il y avait même les gants en coton blanc que le restaurateur enfila.
Bientôt, tout ceci n'existera plus. Les caméras haute définition entièrement numériques vont avoir la peau du bon vieux 35 mm. La magie du cinéma se perd, je vous le dis. Un film sans l'image qui saute, est-ce encore un film ?
La fameuse bobine était enclenchée sur un axe rotatif vertical du côté gauche de la table de visionnage. La pellicule, tirée sur un mètre, passait dans un instrument central qui faisait office de loupe et d'écran avant de ressortir vers une bobine d'enroulage. La seule lumière de la pièce était celle d'un néon.
« Commençons par le commencement. Approchez-vous, chère demoiselle. Permettez-moi de vous dire que vous êtes charmante. »
Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Lucie sourit et vint se placer à ses côtés face à la visionneuse.
« On se la fait comment ?»
demanda-t-il.
« Simple ou compliqué ?»«
N'hésitez pas à entrer dans le détail, je n'y connais rien, bien que j'adore le cinéma. Quand vous offriez le projecteur à Ludovic, je regardais mon premier film d'horreur, seul à 11h du soir. C'était L'Exorciste, le meilleur et le pire de mes souvenirs. »
« L'Exorciste, l'une des productions les plus rentables de l'histoire du cinéma. Le réalisateur du premier, William Friedkin, avait plongé ses acteurs dans des conditions abominables. Coup de feu surprise aux oreilles, pièces glaciales pour amplifier le jeu. Maintenant, aux acteurs, il leur faut leur confort. »
Lucie le regardait avec tendresse. Il parlait passionnément. Pareil à son propre père quand il discutait hameçon et canne à pêche. Elle était alors si petite.
Donc, notre film. Notre film, oui. D'abord, le format. Du 16 mm. Il a été entièrement réalisé caméra à l'épaule. Sans doute une Bolex légère, portative, la caméra mythique des années 50. Bizarrement tournée à 50 images par seconde, comme l'indique l'amorce, alors que le standard est de 24 images par seconde. Mais la Bolex permettait ce genre de fantaisie, répondant ainsi à de nombreuses exigences.
Ce film est l'original ?
Non, non, l'original, ce qui sort de la caméra, est imprimé en négatif sur la pellicule, comme pour la photographie. Ici, vous disposez du tirage positif, celui que l'œil voit. On travaille toujours avec des positifs qui servent aussi de copie de sauvegarde. De cette manière, on peut les couper, les manipuler sans crainte.
Il tira la bande à l'aide d'une manivelle. Sur l'écran s'afficha en bas du ruban S-A-F-E-T-Y.
Ce terme inscrit sur l'amorce, safety, indique que le support de l'émulsion est de l'acétate, sans danger. Jusqu'aux années 50, il l'était encore pour la plupart en nitrate inflammable. Vous avez sans doute en tête la scène où Philippe Noiret prend feu à l'intérieur d'une cabine de projection, dans Cinéma Paradiso, parce qu'il ouvre une boîte contenant une pellicule en nitrate. Mythique.
Lucie acquiesça. Pourtant, elle n'avait jamais vu ce film. Les classiques italiens n'étaient pas trop son style, contrairement aux films noirs américains des années 50 qu'elle dévorait avec passion.
Le rond noir, au-dessus du A, prouve que la pellicule a été fabriquée au Canada. C'est la symbolique internationale utilisée par Kodak.
Le Canada. Ludovic avait expliqué avoir déniché la bobine dans le grenier d'un collectionneur belge. Et aujourd'hui, cette même bobine se retrouvait en France. Ces films anonymes devaient avoir la même vie que des timbres de collection ou des pièces de monnaie et voyager de pays en pays. Lucie mit dans un coin de sa tête qu'il faudrait peut-être interroger le fils du collectionneur si l'enjeu en valait la peine. Elle dut avouer que cette petite enquête personnelle, loin des sentiers battus, l'excitait. Claude sembla se connecter à ses pensées.
« Ces films voyagent et se perdent. » Plus de 50% des œuvres d'avant la Seconde Guerre mondiale ont disparu, vous imaginez? Là-dedans, il y a de purs chefs-d'œuvre qui croupissent sans doute dans des greniers. Des Méliès, Chaplin, un tas de John Ford aussi.
On sait de quand date celui-ci?
Claude Poignet tourna la manivelle.
Lorsqu'arriva la toute première image du film, entièrement noire, avec le rond blanc, il désigna le bas de la bande. Lucie remarqua la présence de deux symboles. Un plus et un carré, juste au-dessus des perforations, ainsi que des numéros.
Kodak utilisait un code composé de figures géométriques pour dater ses bandes. code qu'il réutilisait tous les 20 ans. »
Il tendit une feuille plastifiée à Lucie, une espèce de fiche technique.
« Regardez cette grille. La croix et le carré démontrent que le positif a été tiré soit en 1935, 1955 ou 1975. » Vu l'état de la pellicule et les vêtements de l'actrice en scène d'ouverture, nul doute qu'il s'agit de l'année 1955.
Il pointa l'index sur l'écran.
Ce numéro ici, présent toutes les 20 images, est ce qu'on appelle le numéro de bord. Il identifie le fabricant, Kodak pour ce qui nous concerne. Le type de pellicule, le numéro de rouleau et un suffixe à 4 chiffres qui individualise chaque image. En gros, on peut savoir où et quand cette pellicule est sortie de son laboratoire. Cependant, je vous garantis d'emblée que vous n'arriverez à rien avec ces numéros. C'est trop lointain et il est fort probable, vu l'évolution, que le laboratoire d'origine n'existe plus.
Il fixa Lucie avec un air satisfait. Ses verres grossissaient considérablement ses globes oculaires. Lucie lui rendit son sourire. On passe au contenu ? Le visage de l'homme se ternit. Il perdit instantanément de sa bonne humeur.
J'aurais dû vous le dire au début, mais ce film, c'est celui d'un génie et d'un psychopathe. Les deux réunis dans le même esprit tordu.
Lucie sentait naître l'excitation. En plein congé, elle se retrouvait au fin fond d'un atelier à basculer dans un univers malsain qu'elle côtoyait chaque jour à la brigade. C'est-à-dire ?
Il y a là-dedans des images pour le moins troublantes. Vous avez dû le ressentir au fond de vous-même, sans vraiment comprendre pourquoi.
Oui, une impression de malaise, surtout avec la scène de l'œil au début, qui plonge immédiatement dans une ambiance glaçante.
Un pur trucage, évidemment. L'œil fendu est celui d'un animal, peut-être d'un chien. Mais cette séquence montre surtout que l'œil, en soi, n'est qu'une vulgaire éponge qui capte l'image, une surface lisse qui ne comprend pas le sens des choses. Et que, pour mieux voir, il faut percer cette surface lisse. Aller au-delà, à l'intérieur du film.
Claude Poignet tourna sa manivelle jusqu'à présenter sous la loupe l'image d'une femme complètement nue. Poitrine généreuse, position provocante, c'était l'actrice hautaine du début du film, celle qui se faisait crever l'œil. Elle se tenait dans un décor sombre, peu contrasté. Sur cette image fixe, des dizaines de mains surgissaient par l'arrière pour explorer ses formes et son sexe. On ne distinguait pas les acteurs. Ils devaient être vêtus intégralement de noir, comme les complices sur la scène d'un magicien. Le restaurateur décala alors la pellicule d'une image en actionnant sa manivelle. On revenait illico sur la fillette, installée sur sa balançoire. Son visage s'était substitué au centimètre près à celui de la femme.
La 25e image, comme on dit, même si ici, il s'agirait plutôt de la 51e image. Ce film en est truffé. Il date de 1955, alors que le procédé subliminal a été officiellement utilisé par James Vickery, un publiciste américain, en 1957. C'est assez bluffant, je dois dire.
Lucie connaissait le principe des images subliminales. Elles apparaissaient de manière tellement brève que l'œil n'avait pas le temps de les percevoir, tandis que le cerveau, lui, les avait vues. La flic se rappela que François Mitterrand avait utilisé cette technique en 1988. Le visage du candidat à la présidence était apparu dans le générique du journal d'Antenne 2, mais pas suffisamment longtemps pour que le spectateur puisse le percevoir de manière consciente. Le créateur du film était donc un précurseur.
Quelqu'un d'extrêmement doué, en tout cas. Le grand Georges Méliès avait tout inventé en termes d'effets spéciaux, de manipulation de pellicules, mais pas le subliminal. Et n'oublions pas que nous sommes dans les années 50, que les connaissances sur le cerveau et l'impact des images sur l'esprit sont encore relativement archaïques. Un de mes amis travaille dans le neuromarketing. Je vais vous donner son adresse. D'ailleurs, je lui ferai visionner le film également, si cela ne vous dérange pas. Avec ses machines ultra perfectionnées, il pourra peut-être y découvrir des choses intéressantes que mes yeux auraient manquées. Au contraire, n'hésitez pas.
Il fouilla dans une corbeille remplie de cartes de visite.
Tenez, sa carte, au cas où... Il vous parlera du subliminal mieux que moi. Le cerveau, les images, leur impact sur l'esprit. Vous vous rendrez compte à quel point aujourd'hui on nous manipule sans que nous nous en apercevions. Vous avez des enfants ?
Les traits de Lucie s'adoucirent.
Oui, des jumelles, Clara et Juliette. Elles ont 8 ans.
Et vous leur avez probablement déjà montré Bernard et Bianca ?
Comme toutes les mères.
Il y a dans le dessin animé l'image subliminale d'une femme nue cachée dans une fenêtre à un moment donné. Un petit délire personnel du dessinateur, certainement qui n'a, rassurez-vous, aucune conséquence sur l'esprit de vos enfants. L'image est trop minuscule. Toujours est-il que personne n'a rien vu pendant toutes les années d'exploitation du dessin animé.